Le logement social peut-il supporter une baisse des APL ? Bonjour Jean-Claude Drian.
Bonjour Guillaume Herner.
Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Alors tout d'abord, il faut quantifier cette baisse. On a évoqué une baisse de 5 euros par mois sur les APL. S'agit-il de cette baisse-là dont on parle pour les offices HLM ?
Alors non, c'est pas cette baisse-là dont on parle, puisqu'il y a en fait deux moments. Il y a un moment de fin juillet où on a annoncé une baisse de 5 euros pour tout le monde, quels que soient les locataires, qu'il soit dans le secteur social ou dans le secteur privé. Et puis ce qui a été annoncé la semaine dernière dans le cadre du projet de loi de finances, qui pour le secteur HLM seulement, va générer une baisse de 50 à 60 euros par mois à partir de début 2018.
Donc c'est plus du tout la même chose, et là ça pose de véritables difficultés pour un secteur qui aujourd'hui, dites-nous Jean-Claude Drian, est financé de manière assez atypique. Il faut nous rappeler les principes de ce financement.
Alors très vite, il est financé principalement par la dette, c'est-à-dire qu'en fait les organismes de logement social empruntent auprès de la Caisse des dépôts sur des fonds qui sont les fonds de nos livrets A que tout le monde ou presque possède dans ce pays. Et puis une partie de ce financement se fait par des subventions de l'État, des collectivités territoriales. Et puis depuis déjà 10 à 15 ans, de plus en plus, les organismes de logement social mettent des fonds propres dans ce financement, entre 10 et 15% selon les opérations. Donc ce sont ces fonds propres en quelque sorte qui vont se trouver impactés par cette baisse de l'APL qui elle-même est censée être compensée pour les locataires par une baisse du loyer.
Donc cela signifie qu'il va manquer des sous, on le comprend bien, ça va représenter une baisse d'1,7 milliard dans le budget des HLM, c'est-à-dire une baisse vraiment considérable.
Oui, c'est à peu près la moitié, même un peu plus que la moitié de ces fameux fonds propres dont ils disposaient et qui leur servaient à investir. Donc une des conséquences majeures, c'est que leurs investissements en construction, en amélioration de leur patrimoine, en rénovation urbaine, etc., risquent de souffrir s'il n'y a pas une compensation d'une façon ou d'une autre.
Pourquoi le gouvernement fait-il cela ? Considère-t-il par exemple qu'il s'agit d'un secteur nanti ou bien au terme des arbitrages, n'a-t-il pas d'autres possibilités ? Expliquez-nous, Jean-Claude Drian.
Il y a deux hypothèses complémentaires. La première, c'est simplement une hypothèse budgétaire, c'est-à-dire il faut faire des économies budgétaires. L'APL, ça coûte 18 milliards par an, on trouve que c'est trop. Bon, ça c'est l'hypothèse simple, c'est l'hypothèse Bercy, disons. Et puis il y a une hypothèse plus complexe qui est celle de à cette occasion de mettre en cause le modèle français du logement social dont on considère effectivement qu'il est plutôt riche, mais il est riche parce qu'il possède 4,5 millions de logements, 11 millions de locataires.
Enfin, il est riche en actifs, mais enfin, comme vous l'avez dit, il est peu riche en fonds propres, puisque aujourd'hui il va se retrouver amputé en fait de 50% de ses fonds propres.
Oui, absolument. Il n'est pas si riche que cela en fonds propres, et surtout cette richesse elle est extrêmement inégalement répartie, c'est-à-dire qu'on a des organismes de logement social qui sont capables de générer beaucoup de fonds propres, qui vont certes subir un impact, mais qui sera pour eux un impact supportable. Pour d'autres, ça va être extrêmement difficile. Et cette difficulté, elle peut faire en sorte que ces bailleurs plus fragiles, ils soient rachetés par d'autres et que se constituent progressivement, ce qui est déjà en marche, des grands groupes nationaux.
Alors, on va voir cette possibilité-là. En attendant, cela risque de se traduire par une dégradation du bâti pour les locataires qui sont dans le parc HLM.
Oui, ça va se traduire par un ralentissement des travaux de réinvestissement sur le parc existant, et puis probablement par une baisse du nombre de logements produits un peu partout en France.
Ensuite, vous venez de le dire, les offices HLM ne vont pas être égaux face à cette diminution de budget.
Non, ils vont être très inégaux même, parce que en fait, cette diminution de budget, elle est proportionnelle au nombre de locataires qui bénéficient de l'APL. Or, on a des différences très fortes, c'est-à-dire qu'en Ile-de-France où les revenus sont plutôt plus élevés, on a entre 30 et 40% d'allocataires, mais si vous allez dans des villes de régions beaucoup plus pauvres, vous pouvez avoir jusqu'à 75-80% d'allocataires, et du coup, c'est ceux-là qui vont le plus subir le choc.
Alors, je vais faire un peu de mauvais esprit, Jean-Claude Drian, est-ce que par exemple des sociétés privées pourraient racheter certains de ces logements HLM ? Est-ce qu'ils pourraient décider de profiter de la détresse relative de certains offices HLM pour faire de bonnes affaires ?
Alors, de bonnes affaires, pas forcément, parce que si ces organismes les plus en détresse ne sont pas forcément ceux qui ont le patrimoine le plus valorisé ou valorisable. Des sociétés privées...
Bah, s'ils sont très en détresse, peut-être qu'ils seraient obligés d'accepter des propositions à vil prix.
Bien sûr, et auquel cas, les sociétés privées en question seraient des sociétés privées HLM, hein, puisque le système du logement social aujourd'hui est très fermé sur lui-même. Mais effectivement, on constate depuis quelques années déjà que des grands groupes se constituent par croissance externe, c'est-à-dire en acquérant d'autres organismes. Ça peut être une façon de faire et ensuite de permettre à ces grands groupes d'arbitrer différemment les patrimoines qui sont en Île-de-France ou ceux qui sont ailleurs, par exemple.
Bon, l'autre possibilité, ce serait que finalement, le gouvernement, bon, j'allais dire, renonce à cette mesure, en tout cas qu'il compense la baisse.
Alors, il va y avoir d'une façon ou d'une autre une compensation. La question est de savoir si cette compensation sera suffisante et si elle sera équitable en termes d'organisme. Il va y avoir notamment probablement un rallongement de la durée des dettes en cours qui vont permettre d'abaisser les annuités de remboursement de dettes et du coup de compenser en partie. Pendant combien d'années cette compensation sera-t-elle efficace ? C'est ça qui est un des grands doutes.
Mais pourtant, on manque aujourd'hui de logements sociaux en France, Jean-Claude Drian, ou c'est seulement un effet de perspective ?
La réponse, dès qu'on parle de logement, c'est ça dépend où. C'est toujours la même. Hein. En Île-de-France, oui, on manque de logements sociaux. Dans la plupart des grandes métropoles, oui, on manque de logements sociaux. Dans d'autres villes, c'est pas tellement une question de nombre, c'est une question de qualité. Sans doute faut-il continuer à en construire, mais sans doute faut-il en démolir encore plus. Mais tout ça, forcément, c'est de l'investissement.
Mais alors, en Île-de-France, puisque c'est l'une des zones les plus tendues, mais on pourrait aussi parler de la région Rhône-Alpes. Il y a un certain nombre de secteurs partout où le marché immobilier est en tension, on manque de logements sociaux. Est-ce que c'est imaginable que l'on continue à en produire, ou est-ce qu'il va falloir, par exemple, faire avec des centres-villes paupérisés, parce que c'est souvent l'alternative qui est offerte à ces ménages qui ne peuvent pas aller dans le parc social ?
Alors, je crois franchement que nous ne sommes pas dans une tendance de ralentissement de la production de logements sociaux dans les zones les plus tendues. Je pense que là, le gouvernement fera ce qu'il faut pour compenser. Et puis, en plus, ce n'est pas dans ces villes les plus tendues que l'on a les organismes les plus fragiles, ceux qui vont le plus souffrir de l'affaire. En revanche, je crois qu'on va avoir des écarts croissants en matière de production de logements sociaux entre ces grandes villes à marché tendu et le reste du territoire qui pourrait effectivement en souffrir. Et la problématique des centres-villes que vous évoquez, il sera particulièrement forte.
Alors justement, donnez-nous des exemples.
Bah, vous pouvez prendre des exemples de villes moyennes, des villes comme Nevers, comme Bourges, qui sont pour certaines plutôt en décroissance économique et démographique, d'autres qui sont plutôt dynamiques, des villes comme Arras par exemple, qui sont des villes dynamiques mais qui ont toutes ce problème du centre-ville. Dans certaines de ces villes, construire un logement social, c'est en remplacer deux qu'on démolit. D'autres...
Ce qui du coup oblige à des investissements...
Oblige à investir et surtout que dans ces villes-là, où les centres-villes se dévalorisent, il y a finalement assez peu d'opérateurs privés. Hein. Les promoteurs ne se précipitent pas pour construire à Nevers ou à Bourges. Donc si on veut avoir des politiques urbaines dans ce genre de villes, les bailleurs sociaux, les organismes de logement social sont finalement des opérateurs comme les autres. Ils ne jouent pas du tout le même rôle qu'en Île-de-France, mais ils jouent un rôle également.
Oui, parce que vous rappelez que le logement n'est pas fongible. C'est-à-dire on parle de 500 000 logements produits par an, mais évidemment, un logement produit dans une zone tendue ou un logement produit dans une zone où il y a déjà pléthore, ça n'est pas la même chose.
Ah,
dernière chose, est-ce que l'on peut imaginer, Jean-Claude Drian, que certains ménages rachètent leur HLM ?
Alors, le gouvernement, là encore, a annoncé une politique active en la matière. Alors, il y a un chiffre un peu magique qui est celui de vendre chaque année 40 000 logements sociaux, c'est-à-dire à peu près 1% du parc, un petit peu moins. On n'y est encore jamais arrivé. Pour l'instant, on tourne entre 8 et 10 000. Certains locataires seraient tout à fait intéressés à les acheter, mais je ne suis pas sûr qu'on arrive à en vendre 40 000 par an, parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait suffisamment d'intérêt pour les locataires HLM à acheter leur logement. Ils préfèrent parfois s'acheter une petite maison en périurbain.
Merci beaucoup, Jean-Claude Drian.